le 7-9 du week-end. Patricia Martin, sur France Inter.
Le journal de la semaine avec vous Stéphane Leneuf.
Bonjour, avec Alexis Brezet, directeur des rédactions du Figaro, et Laurent Geoffrin, directeur de Libération. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Brexit, le jour d'après, les Anglais quittent l'Union, les Anglais profondément divisés, voire désunis, on va y revenir. Mais pour l'Europe, question, est-ce que cette crise majeure peut entraîner sa dislocation ou est-ce que c'est une crise salutaire finalement?
Ah, je crois pas qu'elle soit salutaire, franchement, parce que ça fait précédent. Il n'y aura pas une catastrophe économique, contrairement à ce que certains ont dit. C'est imprévisible, d'ailleurs, mais la vie quotidienne ne va pas changer fondamentalement. Mais c'est un argument en or qui est donné à des forces qui sont en général très négatives, qui sont des forces hostiles à l'extérieur, à l'ouverture, hostiles aux étrangers, qui sont nationalistes, au fond. Et donc, c'est un argument qui est donné aux nationalistes. Et donc, c'est une mauvaise nouvelle, de toute manière.
Alexis Brezet.
Oui, je ne crois pas tant que ce soit un argument donné aux nationalistes que le produit d'un mouvement de retour des nationalismes en Europe, ou
oui,
plus exactement...
C'est ce que j'appelle négatif.
On peut dire que vous pouvez penser que c'est négatif, mais ce n'est pas un gage qui leur est donné. Le vrai problème, me semble-t-il, ce n'est pas tant le Brexit que le fait que le Brexit est le produit d'une rupture entre les peuples d'Europe et l'idée européenne. Et effectivement, de ce point de vue, pour l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Pour l'Europe, en tant que guerre de civilisation, on peut en discuter. Elle en a vu d'autres, l'Europe, et elle en verra sûrement d'autres. Après, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est celle-là. Le fait, il est là. Donc maintenant, la question n'est pas tant de savoir si c'est bien ou pas bien. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'en faire quelque chose le mieux possible. Ça veut dire, je pense, que pour commencer, il faut en tirer toutes les leçons, essayer de comprendre à fond ce phénomène, ne surtout pas essayer de le nier ou de le réduire, et puis d'en tirer les conclusions. Et de ce point de vue, moi, il y a deux tentations qui me paraissent aussi négatives l'une que l'autre. La première, c'est la tentation de la rustine, du rapetissage. Oui, bon, on va changer deux, trois trucs, on va faire Schengen un peu plus efficace, on va faire un peu de coordination économique, et puis ça ira bien. Non, ça n'ira pas, il y a un vrai problème fondamental. Et puis il y a une autre tentation, beaucoup plus cohérente intellectuellement, et intéressante intellectuellement, qui est de dire, ça ne marche pas parce qu'on n'est pas allé assez loin. Et donc, il faut aller à fond encore plus dans encore plus d'Europe, encore plus d'intégration. Ça a une logique intellectuelle. Le problème, c'est que les peuples n'en veulent pas et n'en voudront pas. Et que si on va vers ça, on déchaînera la colère des peuples encore plus et on aura une suite de départs de pays qui sortiront de l'Europe. Donc il faut trouver une troisième solution qui est une Europe différente, qui fasse plus de place aux nations. C'est aussi bête que ça.
Laurent Geoffrin, quand je disais salutaire, est-ce qu'effectivement ça peut pas donner une chance à l'Europe de repartir sur de nouvelles bases?
Oui, enfin, elle se serait bien passée de cette
épreuve.
Parce
que depuis 40 ans, finalement, les Anglais sont à la fois dedans, dehors, ils font pas, ils sont pas.
Oui, c'est ce qu'on dit, sans les Anglais, ce sera plus facile, etc. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qui est content et qui n'est pas content. Ceux qui sont contents sont les gens qui sont contre l'Europe. Donc dire que ceux qui sont contre l'Europe sont contents, c'est très bon pour l'Europe, je vois pas très... Il y a une contradiction, là. Ça tient pas debout, ça. Ce qui est vrai, là, je suis pas d'accord avec Brezet, parce qu'il a l'air de dire les peuples, ils sont nationalistes par essence, comme ça, naturellement. C'est pas vrai. Ça dépend de la manière dont l'Europe fonctionne, si elle a des bons résultats ou des mauvais, si elle est bien gouvernée ou mal gouvernée, ou pas gouvernée du tout. C'est vrai que il y avait une méfiance des classes populaires envers cette construction économique lointaine, on a l'impression que les décisions sont prises ailleurs, d'une part, et d'autre part, que ça organise une espèce de concurrence de tous contre tous, et que ça met en cause beaucoup d'acquis sociaux. C'est ça, c'est l'impression que beaucoup de gens ont, et donc c'est ça, c'est contre ça qu'il faut lutter. Alors effectivement, il y a une manière de lutter, c'est de dire, bon, on n'en veut plus, on arrête tout, et chaque nation reprend ses billes et agit toute seule. C'est une illusion, parce que croire que les nations peuvent décider seules, alors même qu'un certain nombre de phénomènes essentiels sont des phénomènes internationaux, l'idée d'unifier le continent est très logique dans cette optique. Mais il y a surtout cette solution consistant à enfin admettre les peuples ou leurs représentants directs à la table des décisions, pas seulement comme figurants, et donc à donner plus de pouvoir. Alors, effectivement, ça consiste à aller plus loin dans la construction européenne, à donner plus de pouvoir au Parlement européen. Parce que le Parlement devient une instance plus démocratique, qui décide d'un certain nombre de choses, qui contrôle le fonctionnement de la Commission, et qui reprend un certain nombre de prérogatives qui sont actuellement exercées par le Conseil européen, dont personne ne sait vraiment ce que c'est
le problème,
et comment ça marche.
C'est pas tant les parlements européens. Les parlements européens, quand on leur soumet des projets de traités européens, ou des nouveaux...
Non, le Parlement européen.
Non, oui, mais même ça, lui, il va tout voter, ça c'est sûr, il sera très content, on ira toujours plus loin. La vraie question qui devrait...
Il est
certes élu par les peuples, mais ce qui est bizarre, et ce qui devrait vous faire interroger, c'est que chaque fois qu'on interroge un peuple sur une question liée à l'Europe, ils répondent non. Là, on dit les Anglais ils ont toujours été comme ça, mais c'est pas que les Anglais. Il faut quand même voir les choses. Les Danois en 92, les Irlandais en 2005, les Suédois, les Français avec le traité de 2005, les Irlandais, les Grecs, à chaque fois qu'on pose une question directement au peuple, le peuple n'en veut pas. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui va pas. Donc la solution, c'est pas de dire on va donner plus au Parlement européen. Le Parlement européen, il est toujours d'accord. Même les parlements nationaux sont d'accord pour aller plus loin. La question, c'est les peuples. C'est de refaire adhérer les peuples à une idée européenne.
Oui, et bien, ça veut dire... Votre raisonnement consiste à dire, bon, faut arrêter l'affaire.
Ça veut pas dire qu'il faut arrêter. Ça veut dire que quand on a fait fausse route, il faut savoir faire marche arrière sur certains points pour repartir dans la bonne direction. Oui, eh bien oui. Depuis toujours,
chien et loup.
Depuis toujours, il y a vous et d'autres disent on va faire le bonheur des peuples malgré eux.
Pas du tout. Mais quand j'ai que le Parlement, il est élu par le peuple.
Oui, mais vous voyez bien que les peuples, quand on les interroge directement, par exemple en Angleterre, ne veulent pas. Donc ça veut dire qu'on a fait fausse route. Ça veut dire qu'il faut trouver d'autres moyens d'associer les peuples, et notamment leur parlant de ce qu'ils ont de plus.
Vous voulez faire l'Europe avec des frontières
Je veux faire l'Europe
nationale,
avec les peuples,
avec des gouvernements
et pas l'Europe
autonome.
Contre les peuples. Sinon, ça marchera pas. D'ailleurs, on le voit, ça ne marche pas. Je suis désolé.
Il faut les convaincre que ça peut marcher. Mais c'est une cause qui mérite de s'engager justement.
Mais on ne peut pas avoir idée raison en démocratie contre les peuples.
Mais je ne dis pas ça. Tout le monde respectera le verdict du peuple britannique. Personne n'ira contre. Ne vous inquiétez pas. Et la Manche devient un fossé.
Mais demain, vous aurez, si on continue comme ça, vous aurez les Pays-Bas, vous aurez l'Autriche, vous aurez la Hongrie, vous aurez la Tchéquie. Oui, mais ça veut dire qu'on ne les convaincra que si on change. Si on ne change pas, on ne les convaincra pas, puisqu'ils ne sont pas contents de ce qu'il y a.
Oui, là-dessus, on est d'accord, mais dans quelle direction faut-il changer ?
Ils ne se plaignent pas de ce qui n'est pas assez d'Europe. Ils se plaignent que cette Europe ne parle pas leur cœur, ne parle pas leur âme, ne parle pas leur identité.
Je ne crois pas.
Et ne parle que d'économie. Là où je vous rejoins, c'est sur l'obsession de l'économie.
Regardez la France, le vote contre le traité européen.
Bah oui.
Vous avez une partie des gens qui ont voté contre l'Europe, parce qu'ils sont souverainistes, ils ont le droit, c'est la question. Et une autre partie qui a voté contre le traité, au nom d'une autre Europe. C'est vrai ça, que je dis. Et donc si vous convainquez ceux qui sont pour l'Europe, mais une autre Europe, en la faisant mieux fonctionner, vous avez une chance. Je ne dis pas que ça marchera. Mais en démocratie, il faut toujours essayer de défendre des projets auxquels on croit.
Je crois que le problème est beaucoup plus profond qu'un problème de fonctionnement. Et que si on veut sauver l'idée européenne, il faut revoir de fond en comble la philosophie de cette construction européenne et pas se dire, pas adhérer à une idéologie abstraite, au fond, qui est celle du fédéralisme. Ça ne marche plus. C'était peut-être une très belle idée, mais ça ne marche plus.
Ça n'est pas une idéologie abstraite. C'est l'idée qui s'est imposée après la guerre, que ce continent devait absolument choisir la voie de la coopération.
La coopération, entre les nations. Bien sûr.
Et de l'action commune, si vous voulez. C'est ça, l'Europe.
Oui, et après, on a voulu forcer la main.
Je ne vois pas pourquoi les peuples seraient pas d'accord
ce que ça donne. Avec cette perspective. Ça donne l'affaire des travailleurs détachés. Où on se dit, il faut favoriser les transferts de main-d'œuvre, et donc on va faire des travailleurs détachés. Qui provoque une colère dans l'Europe entière parce que ça, les gens se disent mais les travailleurs détachés nous prennent leurs emplois. Ça donne la négociation du traité transatlantique. On va ouvrir cette grande Europe.
Oui, mais vous ne
ça
prenez
donne
pas
la,
en
la
compte
négociation sur la Turquie.
Vous ne prenez pas en compte le fait absolument décisif qu'on a réussi une période de paix et de coopération la plus longue de l'histoire de l'Europe.
On l'a réussi. C'est parce qu'il y a eu la paix qu'il y a eu l'Europe, c'est pas parce qu'il y a eu
Charlemagne,
l'Europe qu'il y a eu la paix.
Depuis les Romains,
ça a été fait par ça.
Comment?
Ça a été fait par ça. Il y a eu la paix, pendant cette période de paix, on a essayé de faire l'Europe. Mais l'Europe n'a pas fait la paix. Il y a d'abord eu une guerre, on a gagné une guerre, et puis après il y a eu la paix.
Ça les a évités.
Juste une dernière question. Quand Marine Le Pen dit, l'Europe sera au cœur de la présidentielle, visiblement, elle veut mettre le référendum au cœur de cette campagne. Est-ce que finalement, là aussi, on en a parlé, c'est un peu la grande gagnante de ce Brexit?
À mon avis,
il y aura le référendum au cœur de la campagne.
On n'a rien gagné de concret pour l'instant. C'est un argument, sa position idéologique est améliorée par le résultat britannique, c'est vrai.
C'est
sauf qu'on va voir maintenant, sauf que les Britanniques vont avoir quelques problèmes.
Alors voilà, malgré tout, plus ce sera...
Parce que si l'Écosse décide de s'en aller, par exemple, donc
gros
ils auront réussi à faire éclater
leur pays.
Plus ce sera compliqué pour les Britanniques, et ça risque quand même de l'être, malgré tout, parce que c'est vrai que le Royaume-Uni là est au bord de l'éclatement, plus la position de Marine Le Pen en sera affaiblie. On se rappelle l'affaire Syriza, ça lui a pas non plus rendu tellement service quand on a vu que Syriza, finalement, reculait. Donc ça veut pas dire qu'elle est apportée par quelque chose d'inarrêtable. N'empêche que la question des peuples, la question du référendum est bien celle des peuples, c'est la même chose, c'est comment réassocier les peuples. Oui, elle va se poser, d'ailleurs on le voit aujourd'hui à droite, le maire, Juppé, commence à parler de référendum. Pas forcément pour dire
plus. Il y a un sophisme dans ce que vous dites, parce que la démocratie ne se résume pas au référendum. Il y a des parlements, il y a une représentation. Les représentations ont aussi le droit de prendre des décisions.
Vous allez voir.
Et dire que l'Europe n'est pas démocratique, c'est de la propagande. Ça, c'est pas vrai du tout.
On arrive au terme.
Vous allez voir que les parlements vont prendre
en
compte les peuples et on voit bien que la politique change vis-à-vis de l'Europe.
Alexis Brozet, Laurent Geoffrin, merci. En tout cas, le débat est lancé. Il n'est pas prêt de se terminer, Patricia.
Merci, Stéphane Leneuve.